Histoire de la Réformation du XVIe siècle. 15-7. Valangin, Guillemette de Vergy, Farel au Val de Ruse, la messe interrompue, guet-apens contre Farel, Farel en prison, les bourgeois et les chanoines, Farel entraîné à la cathédrale, son sermon, la terrasse du château, les idoles détruites, les réformés au gouverneur, triomphe de la réforme. À une lieue de Neuchâtel, au-delà de la montagne, s'étend le Val de Ruse, et près de son entrée, dans une espèce de précipice où mugit un torrent impétueux et que des rocs escarpés entourent, se trouve le bourg de Valangin. Un vieux château bâti sur un rocher élevait dans les airs ses vastes murailles, commandait les humbles maisons des habitants du bourg et étendait sa juridiction sur 5 vallées de ses hautes et sévères montagnes, couvertes alors de noirs sapins, et que peuple maintenant la plus brillante industrie. C'est dans ce château qu'habitait Guillemette de Vergy, comtesse douairière de Valangin, fort attachée à la religion romaine et pleine de respect pour la mémoire de son mari. 100 prêtres avaient chanté la grand-messe au service funèbre du comte. Plusieurs filles pénitentes avaient été mariées, d'abondantes aumônes avaient été répandues. Le curé du Locle avait été envoyé à Jérusalem et Guillemette elle-même avait fait un pèlerinage pour le repos de l'âme de feu son seigneur. Quelquefois néanmoins, la comtesse de Gruyère et d'autres dames venant visiter la veuve de Vergy, celle-ci rassemblait au château de jeunes seigneurs. Le fifre et le tambourin se faisait entendre sous ses voûtes. Des groupes animés se formaient dans les vastes embrasures de ses fenêtres gothiques et des danses joyeuses succédaient aux longs silences et aux mornes dévotions. Il n'y avait qu'un sentiment qui ne quitta jamais Guillemette. C'était sa haine pour la réforme. En quoi elle était fort soutenue par son intendant le sieur de Bellegarde et les chanoines de Valangin. Guillemette et les prêtres avaient en effet lieu de trembler. Le 15 août était une grande fête romaine, Notre-Dame d'Août ou l'Assomption, et tous les fidèles du Val de Ruse se préparaient à la célébrer. Ce fut le jour que choisit Farel. Cet homme, qui animait le feu et la vertu d'Élie, part pour Valangin. Et un jeune homme, son compatriote, et à ce qu'il paraît son parent éloigné, Antoine Boive, chrétien ardent et d'un caractère décidé, l'accompagne. Les deux missionnaires gravirent la montagne, s'enfoncèrent dans les sapins, puis, redescendant la vallée, dépassèrent Valangin, où le voisinage du château ne les encourageait guère à s'arrêter, et arrivèrent dans un village probablement Boudevilliers, se proposant d'y annoncer l'Évangile. Déjà, de tous côtés, on se rendait à l'église. Farel et son compagnon y entrèrent, accompagnés d'un petit nombre d'habitants qu'il avait entendus à Neuchâtel. Le réformateur monta aussitôt en chaire, et le curé se disposa à célébrer la messe. La lutte commença. Tandis que la voix de Farel prêche Jésus-Christ et ses promesses, les voix du prêtre et du chœur chantent le missel. Le moment solennel approche. La transsubstantiation ineffable va s'accomplir. Le prêtre prononce sur les éléments les paroles sacrées. À ce moment, le peuple n'hésite plus. D'anciennes habitudes, une influence invincible l'entraîne vers l'autel. Le ministre est abandonné. La foule à genoux a retrouvé son culte. Rome triomphe. Tout à coup, un jeune homme s'élance du milieu de la foule, traverse le chœur, se précipite vers l'autel, saisit l'hostie des mains du sacrificateur et, se tournant vers le peuple, s'écrie « Ce n'est pas ici le Dieu qu'il faut adorer. Il est là-haut, au ciel, en la majesté du Père, et non entre les mains des prêtres comme vous le croyez. » C'était Antoine Boive. Cet acte audacieux produisit d'abord l'effet désiré. La messe fut interrompue, les chants cessèrent, et la foule, frappée comme par une intervention surnaturelle, demeura immobile et muette. Farel, toujours en chair, profita aussitôt de ce calme et annonça ce Christ que le ciel doit contenir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Alors, prêtres, chantres et adhérents se précipitèrent dans les tours de l'église, montèrent au clocher et sonnèrent le tocsin. Ce moyen réussit. On accourait de toutes parts, et si Farel ne se fut retiré, sa mort et celle de Boive étaient inévitables. Mais Dieu, dit la chronique, les délivra. Ils franchirent la distance qui sépare Boudevilliers de Valangin et s'approchèrent des gorges escarpées du torrent de Seyon. Mais comment traverser ce bourg où le tocsin avait déjà porté l'alarme? Laissant à gauche Chaumont et ses sombres forêts, les deux évangélistes prirent un chemin étroit qui passait au-dessous du château. Ils s'y glissaient prudemment, quand tout à coup, une grêle de pierres les assaillit. En même temps, une vingtaine de personnes, prêtres, hommes et femmes armés de bâtons, fondirent sur eux avec rage. Les prêtres n'avaient pas la goutte aux pieds et aux bras, dit un chroniqueur, et ils les battirent tellement que peu s'en fallut qu'ils ne perdissent la vie. Madame de Virgy, descendue sur ses terrasses, loin de modérer la colère des prêtres, criait « Allô, allô ! Jetez dans le Seyon ces chiens de luthériens qui ont méprisé le bon Dieu !» En effet, les prêtres se mirent à traîner vers le pont les deux hérétiques. Jamais Farel ne fut plus près de la mort. Tout à coup, derrière le dernier rocher qui cache Valangin du côté de la montagne, parurent certains bons personnages du Val de Ruse, venant de Neuchâtel et descendant dans la vallée. « Que faites-vous » dirent-ils au prêtre, dans l'intention sans doute de sauver Farel. « Mettez plutôt ces gens en sûreté pour qu'ils aient à répondre de leur action. Voulez-vous vous priver du seul moyen qui soit en votre pouvoir pour découvrir ce qu'infecte le poison de l'hérésie ?» Les prêtres se rendirent à cette parole et conduisirent les prisonniers au château. Comme ils passaient devant une petite chapelle où se trouvait une image de la Vierge, à genoux dirent-ils à Farel et à Boive en leur montrant l'image. « Prosternez-vous devant Notre-Dame. » Farel se mit à les admonester. « Adorez un Dieu seul en esprit et en vérité, leur dit-il, et non des images muettes, sans âme et sans pouvoir. » Mais eux, continue le chroniqueur, rudement fâchés de ses propos et constance, lui donnèrent de nouveau tant de coups qu'ils le mirent tout en sang, jusque-là que son sang, jaillissant sur les murailles de la chapelle, on en voyait longtemps après encore les marques. On se remit en marche, on entra dans le bourg, on monta le chemin rapide qui conduisait à l'esplanade où Guillemette et les siens attendaient les luthériens. Si bien, continue la chronique, qu'en frappant ainsi continuellement sur eux, ils les reconduisirent, tout couverts de boue et de sang, jusqu'aux prisons, où ils furent dévalés, presque morts, dans le croton, cachot, du château de Valangin. Ainsi, Paul, à Listre, avait été lapidé par les Juifs, traîné, et laissé comme mort. Les apôtres et les réformateurs ont prêché la même doctrine et subi les mêmes traitements. Il faut le reconnaître, Farel et Boive mirent trop de vivacité dans leur attaque. Toutefois, l'Église du Moyen-Âge, retombée dans l'esprit légal du judaïsme et dans toutes les corruptions qui en découlent, avait besoin d'une opposition énergique pour être ramenée au principe de la grâce. Augustin et saint Paul reparurent dans l'Église du XVIe siècle. Et, quand on voit l'action de Boive se jetant tout ému vers ceux qui ont adoré le pain de la messe, peut-on ne pas se rappeler l'action de Paul déchirant ses vêtements et se précipitant au milieu de la foule qui veut adorer des hommes? Farel et Boive, descendus dans le souterrain du château, purent, comme Paul et Silas dans les prisons de Philippe, chanter dans le cachot de Valangin les louanges de Dieu. Monsieur de Bellegarde, toujours prêt à persécuter l'Évangile, leur préparait une mauvaise fin. Quand des bourgeois de Neuchâtel arrivèrent pour les réclamer. Madame de Valangin n'osa les refuser, et même, sur la demande des Bernois, elle ordonna une enquête pour faire bonne mine, dit un manuscrit. Néanmoins, celui des prêtres qui avait le plus battu Farel mangea depuis lors tous les jours à la table de la dame pour récompense. N'importe, la semence de la vérité était tombée dans le Val de Ruse. À Neuchâtel, les Bernois soutenaient les bourgeois évangéliques. Le gouverneur, à bout de ressources, envoya des ambassadeurs à la princesse, la suppliant de venir par-deçà pour apaiser son peuple qui était dans un terrible trouble à cause de cette luthérienne religion. En attendant, la fermentation ne cessait de croître. Les bourgeois priaient les chanoines de quitter la messe. Ceux-ci refusaient. Alors, les bourgeois leur présentaient leurs raisons par écrit et les suppliaient de disputer avec Farel. Même refus. Mais de grâce, leur disait-on, parlez pour ou contre. Tout était inutile. Le 23 octobre était un dimanche, et Farel, de retour à Neuchâtel, prêchait à l'hôpital. Il savait que les magistrats de la ville avaient délibéré sur la convenance de consacrer la cathédrale même au culte évangélique. « Quoi donc, dit-il, ne ferez-vous pas autant d'honneur à l'Évangile que ceux du parti contraire en font à la messe? Et si cet acte superstitieux se célèbre dans la grande église, l'Évangile aussi n'y sera-t-il pas annoncé? » À ces mots, tout son auditoire se lève. « à l'église !» s'écrie-t-on. Des hommes impétueux veulent mettre la main à l'œuvre pour accomplir ce que la prudence des anciens a proposé. On sort, on entraîne Farel, on monte la rue escarpée du château. En vain les chanoines et leurs gens, effrayés, veulent-ils arrêter cette foule. Elle force le passage. Convaincue que c'est pour la gloire de Dieu qu'elle s'avance, rien ne l'arrête. Les insultes, les cris l'assaillent de toutes parts. Mais, au nom de la vérité qu'elle défend, elle marche, elle ouvre les portes de l'église, de Notre-Dame, elle y entre, et là commence une lutte nouvelle. Les chanoines et leurs amis, assemblés autour de la chaire, veulent empêcher Farel. Mais tout est inutile. Ce n'est pas à une troupe de révoltés qu'ils ont affaire. Dieu a prononcé dans sa parole, et les magistrats eux-mêmes ont pris une résolution définitive. Les bourgeois s'avancent donc contre la coterie sacerdotale. Ils forment un bataillon serré, au milieu duquel ils placent le réformateur. Ils parviennent à rompre la foule, et font enfin monter le ministre en chaire, sans qu'il lui soit arrivé aucun mal. Aussitôt, tout s'apaise dans la cathédrale et au dehors. Les adversaires même se taisent. Et Farrell prononce l'un des plus forts sermons qu'il ait encore fait. Les yeux s'ouvrent, l'émotion augmente, les cœurs se fondent, les plus obstinés semblent convertis. Et bientôt, dans toutes les parties de l'antique église, on entend retentir ces cris. Nous voulons suivre la religion évangélique, et nous et nos enfants, vivre et mourir en elle. Tout à coup, il y a comme un tourbillon qui passe sur cette multitude, semblable à une vaste mer, et la soulève. Les auditeurs de Farrell veulent imiter le saint roi Josias. Ôter les idoles de devant nos yeux, ne sera-ce pas, disent-ils, nous aider à les ôter de nos propres cœurs? Une fois ces idoles brisées, que d'âmes parmi nos combourgeois maintenant troublés, hésitantes, qui seront décidées par cette manifestation éclatante de la vérité? Il faut les sauver comme à travers le feu. Ce dernier motif les décide, et l'on voit alors commencer une scène qui remplit d'horreur toutes les âmes dévotes et qui doit, selon elle, attirer sur cette ville les terribles jugements de Dieu. La place même où elle se passa semble ajouter à sa solennité. Au nord, les murs du château s'élèvent sur les escarpements à pic de la triste mais pittoresque vallée du Seillon. Et la montagne, toute rapprochée du manoir, n'offre à l'œil que rochers nus, pampres de vignes et noirs sapins. Mais au midi, devant la terrasse sur laquelle cette action tumultueuse a lieu, les eaux solitaires et tranquilles du lac, ses bords si riches et si pittoresques, et dans le lointain les sommités continues des Alpes, leurs neiges brillantes, leurs immenses glaciers, leurs dents gigantesques, se présentent à l'œil étonné. C'est sur cette éminence que s'agitait alors le peuple de Neuchâtel, faisant peu attention à ce grand spectacle de la nature. Le gouverneur, dont le château touche l'église, doit se résoudre à être l'oisif témoin des excès qu'il ne peut prévenir. Il s'est contenté de nous en laisser la description. Ces hommes audacieux, dit-il, saisissent des pioches, des haches et des marteaux, et marchent ainsi contre les images des saints. Ils s'avancent, ils frappent les statues et les autels et les mettent en pièces. Les figures sculptées au XIVe siècle par les imagiers du comte Louis ne sont point épargnées. À peine les statues des comtes eux-mêmes, prises pour des idoles, échappent-elles à la destruction. Les Neuchâtelois ramassent tous ces débris d'un culte idolâtre. Ils les transportent hors du temple et les jettent du haut du rocher. Les tableaux ne sont pas plus respectés. C'est le diable, pensent-ils, comme les premiers chrétiens, qui a appris au monde cet art des statues, des images et de toutes sortes de simulacres. Ils crèvent les yeux aux portraits des saints et ils leur coupent le nez. Le crucifix lui-même est abattu, car cette figure de bois usurpe l'hommage que Jésus-Christ réclame dans les cœurs. Une image, la plus vénérée de toutes, subsiste encore. C'est Notre-Dame de Miséricorde, dont Marie de Savoie a fait présent à l'église collégiale. Mais Notre-Dame elle-même n'est pas respectée. Une main plus hardie la frappe, comme au IVe siècle, la statue colossale de Sérapis. Ils ont percé les yeux mêmement à Notre-Dame de Pitié, que feu Madame votre mère avait fait faire, écrit le gouverneur à la duchesse de Longueville. On va plus loin. Les réformés saisissent les patènes où se trouvait le Corpus Domini et du haut du rocher les jettent dans le torrent. Après quoi, voulant montrer que les hosties sacrées sont du pain et non Dieu même, ils se les distribuent et les mangent. À cette vue, les chanoines et les chapelains ne peuvent demeurer plus longtemps immobiles. Un cri d'horreur se fait entendre. Ils accourent avec leurs gens et, opposant la force à la force, engagent enfin la lutte que l'on avait tant redoutée. Le prévôt, Olivier de Horberg, les chanoines Simon de Neuchâtel et Pontus de Soleilhan, tous trois, membres du conseil privé, s'étaient à la hâte rendus au château, ainsi que les autres conseillers de la princesse. Jusqu'à ce moment, ils étaient restés spectateurs muets de cette scène. Mais voyant qu'on en venait aux mains, ils firent sommer les tenants du parti évangélique de paraître devant le gouverneur. C'était vouloir enchaîner les vents. D'ailleurs, pourquoi les réformés s'arrêteraient-ils? Ils n'agissaient point sans l'autorisation du magistrat. « Dites au gouverneur, répondirent fièrement les bourgeois, que, pour le fait de Dieu et concernant les âmes, il n'a rien à nous commander. » Georges de Rive reconnut alors que son autorité se brisait contre une force supérieure à la sienne. Il fallait céder et sauver au moins quelques débris. Il se hâta donc de faire enlever les images qui restaient entières et de les enfermer dans des chambres secrètes. Les Neuchâtelois laissèrent exécuter ses ordres. « Sauvez vos dieux, pensaient-ils, conservez-les sous de puissantes cloisons, de peur qu'Alaron ne vous ravisse ceux que vous adorez. » Peu à peu, le tumulte s'apaisa. Le torrent populaire rentra dans son lit, et plus tard, en mémoire de cette grande journée, on inscrivit ces mots sur une colonne de l'église. L'an 1530, le 23 octobre, fut ôtée et abattue l'idolâtrie de Séan par les bourgeois. Une grande révolution s'était opérée. L'ordre public eut demandé que les images fussent enlevées et que l'évangile leur fût substitué avec calme, comme à Zurich. Mais, sans excuser aucun excès, il faut tenir compte des difficultés qu'entraîne un changement si contesté et faire la part de l'inexpérience et des erreurs inséparables d'une première explosion. Celui qui ne verrait dans cette réformation qu'une révolte ferait preuve d'un esprit étroit et prévenu. C'est l'Évangile qui avait triomphé sur la terrasse du château. Ce n'était plus quelque tableau, quelque légende qui devait parler à l'imagination des Neuchâtelois. La révélation de Christ et des apôtres, telle qu'elle nous a été conservée dans les saintes Écritures, leur était rendue. À la place des mystères, des symboles, des miracles de la papauté, la Réformation leur apportait des dogmes sublimes, des doctrines puissantes, des vérités saintes et éternelles. Au lieu d'une messe vide de Dieu et toute pleine de puérilités humaines, elle leur rendait la scène de Jésus-Christ, sa présence invisible, réelle et puissante, ses promesses qui donnent la paix à l'âme et son esprit qui change les cœurs, et est le gage assuré d'une glorieuse résurrection. Tout est gain dans un tel échange.